que c'est des bandits, comme dirait Stan, et que je vois l'Inter s'imposer, moi personnellement, 3-2. Voilà. Okay. C'est nos pronostics. On verra ça mardi prochain si ça a fonctionné. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Il est 21h et on vous laisse avec la suite de la grille.
J'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est que...
Bonsoir
à tous.
C'est la team imaginaire sur le 101.5 jusqu'à 22h avec ces messieurs qui reviennent du cinéma.
Oui, pas le jour même, mais...
Ah si, c'est lui, il en sort.
Ouais. Sébastien, oui.
Sébastien, je t'entends pas du tout, vas-y, réessaye.
Si, le jour même pour moi, ouais.
Vous êtes allé voir quoi?
Mission Impossible, le 8e volet, The Final. Final.
Ah, non, Reckoning.
Voilà, je suis mauvais en anglais.
La suite de Dead Reckoning, oui.
Et puis Sinners aussi.
Oui, avec Jean-Luc, c'est il y a ça. Une semaine. Ouais.
Au 400 coups.
Et en deuxième partie d'émission, nous écouterons l'interview d'Emma Fontenot, qui est chargée de communication pour le Château d'Angers, et donc qui va nous parler du Bal des Légendes. Je pense que là, maintenant, tout le monde a vu les affiches dans la ville. Sauf Patrice qui ne sort que dans les salles de cinéma.
Les affiches, mais on les a pas communiquées pour l'agenda de l'imaginaire.
Elles sont aussi sur les réseaux. Imaginaire y sera. On vous racontera.
Elles sont magnifiques, je trouve.
Tout ça tout à l'heure, ouais. Eh ben, hop, un petit générique pour commencer. C'est la version Danny Elfman, 1996, le premier Mission Impossible avec Tom Cruise.
Oui.
Et il continue, il persiste, il signe.
Bon, je vais pas vous parler que du dernier film, j'ai
ouais, pas revenons sur toute la série.
Parce que sinon, si je parle que du premier film, que du huitième film, et comme je veux pas vous raconter le scénario, parce que si...
Surtout que c'est la deuxième partie du 7.
On n'en aurait pas beaucoup à dire. Je vais juste rappeler que Mission Impossible, avant d'être une série de films, c'est une série télévisée américaine, en 171 épisodes de 48 minutes.
Avec un générique de la Lochifrine, il n'avait pas beaucoup changé, en tout cas en 1996, là le dernier, j'ai pas réécouté.
Créé par Boss Geller et diffusé donc entre le 17 septembre 1966 et le 30 mars 1973 sur le réseau CBS, ce qui fait 7 saisons que j'ai d'ailleurs vues en intégrale.
Et ça passe toujours à la télévision française, je crois, sur certaines chaînes du câble. Ouais, il me semble.
Il y a eu une seconde série intitulée Mission Impossible 20 ans après, en 35 épisodes de 48 minutes, diffusés entre 23 octobre 88 et le 24 février 90 sur ABC, que je n'ai pas vu, par contre, mais ça manque peut-être à ma culture. On y retrouve l'acteur Peter Graves qui joue Jim Phelps, là, le chef des IMF, Impossible Mission Force. Et le vrai fils de Greg Morris, qui jouait dans la première série, Phil Morris, qui joue toujours l'expert en électronique, en effets spéciaux, dans la première série. Et donc, c'est le fils qui joue dans la deuxième série, voilà. Mm-hmm. Voilà, petite histoire. La série télé, elle comporte assez peu de cascades, en fait. Hein. Elle est surtout basée sur la manipulation des adversaires et des héros. Par les héros. Sosie, acteur, poupée de cire, fausse monnaie, mise en scène,
ouais, voilà.
Électronique, miniaturisée, imitation, déguisement, chirurgie esthétique, enfin tout
l'idée, pour... c'était de duper, monter une, ouais. Voilà, une mise en scène pour...
Voilà, le suspense...
Quelqu'un.
Exactement, le suspense était basé sur la façon de procéder des agents, ainsi que sur un ou deux grains de sable qui ne manquaient pas de se produire dans le courant du scénario.
Mais ils agissaient pas par la force.
Non, très peu par la force. Il y avait quelques coups de poing échangés quand même de temps en temps.
Ça merdait un peu. Sommet,
à la Batman.
Alors, qu'est-ce qui a été conservé dans la série de films? D'abord, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, le thème musical de Lalo Schifrin, hein, sur la mèche qui brûle, réorchestré par Danny Elfman ou Hans Zimmer après, puis d'autres. Là, ils l'ont toujours gardé au fil des... Donc on reconnaît la marque de fabrique de la série.
C'est un peu obligé, je crois.
Avec quelques variations, il y a aussi le fameux « Your mission, should you decide to accept it ?» avec l'accent que j'ai.
Est-ce que ça arrive qu'ils refusent des fois ?
Votre mission, si toutefois vous l'acceptez. Mais non, mais justement, le truc c'est qu'en général...
Le message s'autodétruira dans 5 secondes.
Mais c'est ça. Et dans la...
T'as même pas le temps de choisir, en fait.
Dans la série de films, en fait, cette phrase est parfois prise à contre-pied, complètement, par exemple, dans le début de l'introduction de Rogue Nation, où alors, là, je ne peux pas non plus en dire trop, mais finalement, le twist, il est carrément au début. Ensuite, ils ont gardé aussi, avec un peu moins quand même, mais le coup des masques, qui permettent de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Dans la série télé, on voyait d'ailleurs la fabrication du masque de temps en temps, et on assistait aussi sur le travail d'imitation de la voix de celui qui devait être remplacé. Donc on entendait parfois des extraits où le gars s'entraînait à imiter la voix du personnage à remplacer. Alors dans la série film, je pense, si mes souvenirs sont bons, que cet écueil a été évité, l'histoire de l'imitation de la voix, grâce à un petit appareillage électronique qui doit s'en charger. Alors, en revanche, dans cette série, le producteur Tom Cruise, il a contribué au fil des films à donner sa marque de fabrique en réalisant lui-même des cascades de plus en plus impressionnantes. Et alors, les films ont été réalisés successivement par Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, et enfin Christopher McQuarrie, qui l'a fait les 4 derniers, en fait. Ce Christopher McQuarrie, on lui doit notamment, dans les films un peu connus, The Way of the Gun, avec Benicio Del Toro et Juliette Lewis, où ils enlèvent une mère porteuse. C'est un truc de truand, mi-chemin entre le western, la satire, mais c'est quand même assez violent par moment. Hein. Et il a fait aussi Jack Reacher, qui est avec Tom Cruise, qui a aussi produit Jack Reacher, un film d'action. Alors, bien entendu, on ne va pas trop évoquer les scénarios des différents films, parce que c'est par nature rempli de faux-semblants, de rebondissements inattendus. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire, au moins du dernier, sans trop en dévoiler ? Alors d'abord, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la suite directe du film précédent, hein, qui était annoncé comme étant un diptyque. Deuxièmement, le spectacle est, comme d'habitude, grandiose. Je sais pas ce que t'en as pensé, Sébastien. Est-ce que t'en as eu pour ton argent? Est-ce que ça a répondu à tes attentes au terme de scénario? Je t'interdis d'en parler. Au niveau visuel, au niveau des cascades?
Moi, j'ai vu le dernier volet, donc, au pâté, en IMAX. Donc, je remercie Radio G, qui est partenaire, donc, de
Gaumont. Alors, c'est en 4DX, non, c'est ça? Non,
alors, j'avais pas les lunettes. Ah, Jean-Luc, t'auras peut-être une précision.
Je crois que c'est le son, non, pour la différence?
En IMAX, on est secoué sur le fauteuil.
4DX, bah, je crois que c'est ça.
Parce qu'il y a les scènes d'action, lorsqu'il frappe au point, t'as l'impression de...
De prendre le coup, d'encaisser.
D'encaisser un peu.
Ouais, t'as une personne qui te frappe. Voilà.
Et vraiment, pour moi, on est vraiment comme immergé dans le film lorsqu'il y a les grosses scènes d'action, sans en dire plus. Et c'est vrai qu'il y a des scènes anthologiques comme dans le 7e volet, Et puis, je sais pas, Patrice, pour toi, mais j'ai fait un rapprochement avec le troisième volet de Terminator, le soulèvement des machines, puisqu'on parle d'intelligence artificielle.
C'est un grand méchant, cette
fois. Et comment toi, tu vois justement le traitement de cette intelligence artificielle par rapport aux machines dans Terminator 3?
Bon, ça a quand même vachement évolué parce que on parlait pas autant d'intelligence artificielle à l'époque. Hein.
Ça s'appelait comment pas de cette manière, mais... les grands méchants d'un Terminator, je me rappelle plus. C'était le nom d'une entreprise, mais où la machine avait pris le dessus.
Skynet.
Oui,
mais en fait, bon, c'est vrai que ça, pour ces deux derniers films, le grand méchant, c'est censé être une intelligence artificielle. Bon, ça, c'est le thème général, on va pas en dire plus. Mais c'est vraiment traité de manière très très moderne quand même. Et moi, pour en venir au film, j'ai trouvé quand même que le début, avant le générique, parce que le générique, il arrive finalement pas tout de suite. Hein,
comme pour le 7e et le 6e.
C'est assez lent et un peu convenu. Je me suis dit, là, mais en fait, j'ai réfléchi, c'est un film aussi qui est conçu pour que les gens qui n'ont pas vu le premier puissent quand même le voir.
Oui,
donc il y a beaucoup de flashbacks qui te remettent petit à petit dans le sujet. Alors, on peut rajouter aussi le truc, si dans la série télé... un grain de sable dans les rouages par épisode, c'est à peu près le lot. Quoi.
Ouais.
Il y avait un truc qui marchait pas
ça
dans leur plan.
Pas un coup de poing.
Alors que là, ça serait plutôt le sac de sable, si tu veux.
Tout foire.
Et pas dans tout sac de sable par séquence. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un grain de sable dans un grain de sable dans un grain de sable, chaque solution entraînant un nouveau problème. Toi, c'est une sorte de alors ça.
Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils n'avaient pas du tout réfléchi à leur plan.
Mais non, justement, ils n'ont pas réfléchi à leur plan.
Le plan du stagiaire.
C'est le truc complètement délirant. Quoi.
Mais c'est là. Bah là, on parle de délirant. Moi, je trouve quand même. Je trouve quand même qu'il y a des défauts de rythme dans le 8e. C'est un des plus longs. C'est même le plus long des Missions Impossibles. Et moi, ce qui un petit peu me chagrine.
Mais toi, t'aimes pas quand c'est lent, toi.
Non, c'est que, en fait, Ethan Hunt, vraiment, on pourrait appeler ça les 12 travaux d'Ethan Hunt.
C'est un peu ça.
On a l'impression que c'est Hercule, vraiment, il arrive à faire des choses, mais herculéennes, pour pas
impossible,
en dire plus.
Ouais,
et toi,
impossible.
Patrice, le fait d'avoir cet espion, ce super espion, qui devient comme un super héros, ça te dérange pas un peu?
Ah non, on attend que ça, en fait.
Parce que là, c'est impossible, vraiment, ce qu'il réalise.
Mais justement,
c'est dramatique. C'est ça, en fait.
Non.
Mais par rapport à la série, est-ce que c'est pas plus Mission Impossible?
C'est pas sur le même. L'impossibilité de la série, c'était une impossibilité plutôt à base d'électronique, de trucs comme ça. Mais là, on est sur tous les plans. On est aussi de l'impossibilité des scènes d'action qui, même si elles paraissent impossibles, pour un gars super entraîné, et ben finalement, je pense qu'on finit par y croire quand même, parce qu'on s'attend à ce qu'il avance quand même dans son idée. Et moi, je dirais aussi, parce que le temps nous presse là, que sans trop déflorer le sujet toujours, ce dernier opus, il réussit habilement à faire une synthèse de l'ensemble des films.
Oui.
Là, je ne donne pas les points sur ce sujet, mais toi qui les as revus tous récemment, t'as dû apprécier ce côté, puisqu'on retrouve quelques éléments qui paraissent à certains. Mais ne dis pas quoi.
Non, mais on voit, par exemple, par rapport à Ethan Hunt, en fait, comme tu parlais de grains de sable, même lui, il est un peu un agent provocateur de ça.
Bah oui, c'est sûr que lui.
Et on le comprend par rapport aux flashbacks.
Le génie de se mettre dans la panade, effectivement.
Et les flashbacks sont bien intégrés, effectivement, dans l'histoire.
Et en fait, donc le scénario était conçu finalement pour que l'ensemble des 8 films fasse un tout un peu comme la série des 5 James Bond avec.
Daniel Craig.
Avec Daniel Craig.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Alors, on peut se demander du coup si ça fait un tout qui a une sorte de synthèse globale, quoi. Est-ce que c'est le dernier film de la série? Alors, je dirais, Tom Cruise commence à prendre de l'âge, ça tout le monde le sait.
Ouais.
Et connaissant le gars, j'ai pas l'impression qu'il ait envie de remplacer ses cascades par des effets spéciaux. Mais est-ce que c'est le seul acteur qui peut jouer Mission Impossible, sachant par exemple pour le James Bond que je citais juste avant, il y a eu quand même beaucoup d'acteurs qui ont interprété James Bond, parfois dans des, on pourrait appeler des reboots, hein, parce que la série avec Daniel Craig, elle reprend carrément au début, même si les acteurs du précédent suivent, lui, il démarre au début. Mais après tout, donc, on peut imaginer que Mission Impossible, rien n'est impossible pour continuer la série avec d'autres acteurs, peut-être. On verra bien, l'avenir le dira.
Oui, parce qu'à chaque fois, il y a comme des nouveaux membres qui s'intègrent, des équipes qui se changent.
Qui se font, qui se défont.
Voilà,
il y a quand même, depuis quelques temps, il y a quand même une bonne équipe là qui suit bien. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Luc?
C'est ça, j'ai la question, c'est est-ce qu'il faut avoir vu les premiers?
Alors non, en fait, pour, voilà, c'est bien d'avoir vu
au moins le septième.
Au moins le septième, l'avant-dernier. Ouais, parce que là, ça fait vraiment ça fait une, suite. Là, une suite. Ouais, après, d'accord. Les flashbacks sont suffisants pour que, même si tu ne les as pas vus, tu comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant, qui fait un petit rappel, qui donne l'écho sur une séquence du dernier film. Okay. Mais après tout, je peux tout se passer, je les ai tous.
Je peux savoir. Mais il y avait déjà un diptyque un peu avec le cinquième et le sixième, parce qu'on retrouve un des méchants dans le sixième avec qu'on a dans le cinquième.
Rogue Nation, ouais. Et puis
Fallout.
Et Fallout. Et même d'ailleurs, c'était amorcé dans celui d'avant. On supposait déjà qu'il pouvait y avoir une société secrète, mais c'était oui. Donc c'est vrai qu'il y a, il y a un peu une continuité dans le scénario. Mais c'est pas mal qu'on retrouve. Donc de les voir dans l'ordre, c'est bien.
Bon bah je vais faire ça alors.
Non, et puis là j'avais quelque chose là qui me traversait l'esprit là par rapport au film. Donc
ça t'a traversé tellement vite que c'est parvenu.
Bah ouais, mais j'ai pas l'intelligence artificielle pour me rappeler de tout. Mais c'est vrai qu'en IMAX moi je recommande de le voir parce que là
ouais,
on est dans
des c'est vraiment le genre
on
de
on est dans des conditions vraiment immersives. Moi j'ai trouvé quand même le film avec des défauts de rythme, j'ai trouvé quand même assez moyen par rapport au septième volet.
Tu t'endormais dans ton siège.
Non, du tout. C'est que à des moments, je trouvais ça trop verbeux. Mais comme l'IMAX permet vraiment d'être vraiment dans l'action, du coup, j'étais toujours en éveil. Même j'étais surpris, mais des fois par les séquences, l'IMAX vraiment, t'as vraiment l'impression d'être aux côtés d'Ethan Hunt. Et ça, vraiment, j'ai adoré. C'est on revoit le film mais différemment. En IMAX, et ça sera intéressant aussi d'avoir le regard de Jean-Luc par rapport à un film qu'il aime, un blockbuster, mais vu avec la technologie de l'IMAX.
Il dure combien de temps le film ?
2h51.
D'accord, 2h51. Ouais.
Bon, on va passer à Sinners maintenant, on va parler de Sinners. On s'écoute un extrait de la BO aussi.
Ouais, qui est très belle.
Ah bon. Ouais, elle est très bien. We're gonna rump and trump to midnight. We're gonna fuss and fight to daylight. We're gonna pitch a wang, bang, doodle all night long. 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 Tell Cooter a calling red. Tell Ever assassinate. Tell all Pistol Pete. Everybody. Reprise dans Standard de Blues, hein, je crois, on en a pas mal. C'est un peu le thème de ce film, Sinners.
C'est ça,
enfin,
voilà,
un des blues, thèmes du film.
Non, j'ai envie de dire, c'est un peu le personnage, un des personnages.
La musique.
La musique, ouais. Voilà.
Qui est d'enfer.
Qui est super.
On va s'en écouter un autre extrait tout à l'heure.
Parfait. Allez, c'est parti. Donc, Sinners, qui a un budget d'entre 90 et 100 millions de dollars, quand même. Voilà, qui est un gros blockbuster.
Je sais pas, par rapport à Mission Impossible, je sais pas.
Là, il y a plus de centaines de millions, là.
La comparaison. Le genre, c'est un horreur gothique du sud avec une touche musicale. Dans les acteurs principaux, nous avons Michael B. Jordan, qui interprète les jumeaux Smoke et Stack Moore.
Attends, il fait les deux.
C'est ça. Là.
Il fait les deux. Et moi, je pensais que c'était deux acteurs différents.
Ouais, c'est ça.
Tellement ils jouaient bien.
Ouais. C'est pour ça, franchement.
Creed, tu l'as vu, Creed, ou pas? Toi, tu l'as vu, Jean-Luc?
Non, pas du tout.
Ah, même réalisateur.
Pas encore. C'est ça. Ouais. C'est le même réalisateur. Ouais. Qui a aussi fait Black Panther.
Ouais.
Et qui fait partie des, on va dire, pour l'instant, des meilleurs antagonistes. Qui est Killmonger. Je sais pas si tu l'as vu aussi, Sébastien.
Non. Là, non.
Il a aussi joué dans The Wire, ou Comment élever un super-héros. Nous avons Elie Stenfeld.
Qu'on va écouter chanter dans quelques minutes.
C'est ça, qui interprète Marie, qui a joué dans True Grit, Pitch Perfect, qui est un film musical aussi, si je me rappelle.
Ouais, ouais, elle est autant chanteuse que comédienne, je crois.
C'est ça, ouais. Danseuse aussi. Nous avons Dickinson. Donc, alors, le budget de Mission Impossible 8, c'est entre 300 et 400 millions.
Bon.
Oh, ça va,
je suis pas surpris par rapport à des scènes époustouflantes.
Ouais, c'est ça, en fait. Dans le rôle du méchant, nous avons Jack O'Connell, qui interprète Remick. Pour moi, c'est un très bon acteur. Moi, Sébastien.
Celui qui joue le méchant.
C'est ça, le méchant, on peut dire le vampire.
Ils l'ont dit.
Ouais, on peut le dire, là, c'est.
Ouais, le vampire, c'est pas un spoil.
Le grand méchant, voilà.
Non, le film a été un peu vendu comme ça.
Ouais, c'est ça. Lui, il a joué dans Les Poings dans le Mur, Skins, la série, et Godless et Rogue Heroes. Je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Alors, en 1932, les jumeaux Smoke et Stack Moore, interprétés par Michael B. Jordan, comme on vient de dire, reviennent dans leur ville natale de Clarksdale, dans le Mississippi, après avoir travaillé pour la Pègre de Chicago.
Mm-hmm.
Leur objectif est de transformer une ancienne série en Joke Joint.
Ouais.
Donc, c'est un club de blues.
C'est pendant la prohibition ou pas, du coup?
Ouais, c'est ça, oui, c'est ça.
On a cette problématique.
Ouais, c'est ça. Ils étaient avec Al Capone, je crois bien, si je me rappelle.
Ah oui, d'accord.
Oui,
ouais, ils en parlent.
Des endroits où
ils
on en peut picoler, mais qui sont
ouais,
peut-être interdits.
Ça, voilà, c'est ça.
Bah, ils apportent un vent de modernité dans la bourgade, en fait.
C'est ça.
C'est ce qui va plaire aux jeunes, mais je pense que tu vas en parler.
Ouais, c'est ça.
Qui connaît,
Du coup, ils vont travailler avec leur cousin Sammy, qui est un guitariste talentueux. L'ouverture du club leur attire des visiteurs inattendus. Donc, un groupe de musiciens vampires, voilà, menés par Remick, menaçant leur communauté et leur culture. On peut dire que la bande-son est magnifique, pour un fan de blues. Donc, moi, ma chanson préférée, c'est celle du, je pense qu'on peut le dire sans spoil, on va dire. C'est La Danse des Vampires.
Ouais. Ça met vers la fin.
Oui, je m'en rappelle.
Ça?
Oui, ouais, avec l'hirondelle ou le.
C'est ça.
Ouais, je vois, ça m'a marqué.
Est-ce que c'est une comédie musicale?
Non, en fait, pas du tout. En fait, la musique permet de emmener le film dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Ça rajoute un plus qui est très bien mis en place dedans, quoi.
Est-ce que la musique est à l'origine de choses fantastiques, irréelles ou pas? Il y a un lien un peu entre.
Oui. Mais si on peut pas le dire.
On peut pas le dire. Là, on peut
pas dire quoi.
Sinon,
là,
ça prend beaucoup de choses. Ce serait trop.
La musique a un pouvoir. Voilà.
Ok, ouais, voilà. Ouais.
De toute façon, la musique et les vampires, c'est pas nouveau non plus. Hein.
Le bal des vampires.
Il y a des thèmes. Ah oui. Après tout, le vampire, c'est aussi un charmeur. Il peut charmer avec la musique.
Avec la musique. Et je pense que les films sans musique n'ont pas eu la même saveur, pour ma part.
Ça, c'est clair, il n'aurait pas le même mordant.
La musique a été supervisée par Ludwig Göransson, qui a beaucoup travaillé avec Ryan Coogler.
Et c'est le monsieur qui fait la BO du Mandalorian.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est une personne très. Très bonne.
Un jeune compositeur talentueux.
Donc on intègre des musiques de blues authentiques qui renforcent l'immersion et l'émotion du film. La plupart des musiques ont été enregistrées directement sur les plateaux de tournage. Les comédiens ont fait les tests avant et du coup ça a tourné directement dedans, quoi. Donc Sinners offre une réflexion profonde sur l'histoire et la culture afro-américaine, donc l'esclavage, c'est ça.
Et le racisme peut-être dans les années
de l'époque, parce qu'on voit des, je sais pas si on peut le dire,
dans les années 30,
ils vont raconter tout le film.
Toi, tu es fort là-dessus, quoi.
C'est pas que.
Mais je l'ai pas vu, moi.
Ouais, il y a un petit clin d'œil au, enfin, j'aime pas le mot clin d'œil, mais une référence au Ku Klux Klan, si je prononce bien.
Ouais.
Ku Klux Klan. Tu sais pourquoi Ku Klux Klan, d'ailleurs?
Non.
Pareil que c'était le bruit du réarmement des Winchester.
Ah oui,
il y a de la Winchester dans le film.
Ah bah tiens.
Il y a des explications, pas que de texte, mais avec des munitions.
Donc on peut dire que c'est un film pour les amateurs de cinéma engagé et de récits puissants.
Donc, après, mais ça reste un film d'épouvante.
C'est ça, il y a un peu d'épouvante.
C'est un film qui mélange les genres. Dans son temps, il y a eu Une nuit en enfer qui, ah oui, moi, j'avais, ah oui, trouvé extraordinaire.
Tarantino. Avec Tarantino.
Ouais. Avec et de Tarantino, je crois bien.
Non, c'est moi, pas... j'aurais dit que c'était
avec
plutôt
Tarantino,
son
Rodriguez.
Ouais, Rodriguez,
Tarantino
Robert,
dedans.
Robert Rodriguez. Rodriguez. Où là, on avait des vampires latinos.
Ils arrivent aussi dans un club.
Avec une musique très assez rock, oui, latin, ouais, d'ailleurs, une BO. Mmh.
Et puis c'est un film, c'est pas que d'épouvante. Moi, j'ai, de base, j'ai fait du théâtre et tout, donc l'art pour moi, ça me parle. Et je pense que quelqu'un qui a des aspirations artistiques, il va se retrouver dans le film avec ce jeune, Samy, qui donc a un père pasteur, et qui voit d'un mauvais œil en fait, qui joue de sa musique.
Et ah oui, parce que c'est la musique du diable, peut-être le blues,
oui,
aussi dans les années 30.
Un peu sur la voix pour comprendre le film. Et ça me rappelle aussi l'histoire, je pense, de Robert Johnson.
Ouais,
tu connais, Patrice?
Bah,
en fait, ce gars qui était moqué dans un village et qui est parti un an et qui est revenu jouer comme un dieu de la musique. Et il disait, j'ai fait un pacte avec le diable. C'est une légende,
qu'il
mais les gens le croyaient.
Un, voilà, croisement, c'est ça.
Voilà. Et le film un peu rappelle un peu cette histoire.
Ouais,
et pour moi, franchement, la musique, c'est là on parlait en fait pas d'IMAX mais de 4DX. Et ben c'est un peu le 4DX, ouais, c'est un peu la musique dans Sinners. Elle te fait vibrer. Et moi, je suis ressorti du film avec Jean-Luc. Alors on s'est pas endormi. Hein,
ah oui,
c'est
vrai,
c'est
le
préciser.
Voilà, souligner en plus en VO, et vraiment on était transporté tellement le film, il est waouh, vraiment la musique, elle te prend au trip, et comme tu dis, la BO elle est vraiment géniale, et on a envie d'en passer un second morceau là, et sur les ondes du 101.5 FM.
Eh ben, c'est Haïmi Steinfeld, alors, avec le morceau Dangerous. Alors là, un morceau plus moderne.
Oui.
Je sais pas, ça passe bien dans le film aussi,
oui,
quand même, d'avoir des sonorités plus modernes.
Il y a des fois des sauts temporels.
Ouais, ok.
Voilà.
Oh, I wish that I could be selfish, but I know what that means, that you would be out there hurting, oh, and I would be free.
Let me be selfish.
So come find me in the middle of the night. I'll be your home, we'll be safe from all the lies. Why am I so dangerous to you? You know I wanna let you in. I know what you wanna do. Why am I so
tears?
Allez, Stanfield, donc.
Merci au Radio G, les mardis pères.
Ouais, je vous le repasserai là. J'ai parlé sur ce superbe jingle. J'avais complètement oublié qu'il était caché là. La team karaoké du Salon Imaginaire, c'était le dernier jingle à diffuser. Avant d'écouter l'interview de la chargée de communication du château pour parler du bal des légendes, Sébastien, on va parler un petit peu libre jeu.
Les excellents Sinners, Mission Impossible 8. En fait, l'idée, c'était que pour moi, la ville, en fait, les villes dans le 8, on n'en voit pas tant que ça par rapport aux autres Missions Impossibles. Voilà. C'est ça qui m'a déçu. Bon, voilà, c'était juste.
Va voir des James Bond, tu.
Ouais. Non, mais voilà, c'était juste pour le petit point.
Tu veux voyager un peu plus. Ouais.
Alors là, moi, je parlais d'immersion donc, avec le 4DX. Et là, donc, j'ai des romans immersifs. Bon, pourquoi pas, bah c'est un peu pour dire roman interactif en fait. Ouais. Quoique celui que là j'ai en main, l'invasion de la planète barbare, se joue avec un dé. Donc contrairement à l'autre, ou que je trouve encore meilleur pour moi qui aime la mythologie, c'est les 100 vies de Pénélope, hein, c'est-à-dire qu'on joue Pénélope mais avec plusieurs destins qui peuvent lui arriver. Alors c'est des petites games et il y en a une par exemple qui est très drôle. Je vais pas toutes vous les raconter. Il y en a 25 fins différentes.
Oui.
Et donc on va essayer de déterminer, mais qui est responsable parmi les divinités de l'enlèvement d'Hélène par Paris. Et à un moment donné, t'as
dit. Tout le monde sait que c'est Aphrodite.
Alors, tiens-toi bien, Patrice. Ce ne serait pas Aphrodite la vraie responsable. Il y aurait une autre divinité et qui en cache encore une autre.
C'est Eris, la déesse de la vengeance, qui a lancé la pomme, qui a conduit Paris à choisir Aphrodite, qui est la suite de ça.
Attention, Hélène. Attention, Patrice, c'est qu'il y a encore une autre divinité, enfin associée à une divinité qui aurait.
Il y en avait trois. Avant parce Eris. Sinon, il n'y aurait pas eu de choix s'il n'y avait pas eu trois.
Et en fait, tu vois, là, il y a l'autrice.
Athéna, Hera.
Et voilà. Alors là, t'es dans le vrai avec ces trois déesses au début, Aphrodite, Hera. Et Athéna, pour le concours de beauté, il y a également la déesse de la discorde, Eris, bravo.
Qui n'avait pas été invitée au mariage. Donc.
Mais, en fait, il y aurait donc un autre personnage caché, qui est responsable. C'est ce que j'aime un peu dans ce livre-jeu mythologique, c'est qu'il y a vraiment une immersion vraiment dans la mythologie, et même des surprises qui pourraient surprendre donc Patrice. Et c'est marrant aussi de voir Pénélope, est-ce qu'elle va attendre ou non son Ilysse ou succomber au charme d'un autre gars. Et donc même si on fait une certaine fin, on peut, l'autrice nous invite à revenir en arrière pour vivre d'autres choses. Et c'est à partir de là que tu peux, Romain, dresser le réseau sur une feuille. Il y a 113 sections. Et comme le dit un ami donc du prix du livre-jeu, c'est vraiment une très belle construction. Donc moi, je le recommande et ça permet aussi de vivre un peu le retour d'Ilysse, mais du côté de Pénélope, qu'on voit donc dans d'autres livres-jeux, mais pas en l'incarnant. Donc on l'a sur la couverture, on la voit.
Jolie couverture. Bon,
est-ce qu'on t'oblige à tisser en parallèle une tapisserie à la découdre la nuit?
On a également donc cette possibilité avec
tous les numéros
prétendants.
Des paragraphes de noter.
25 fins quand même. Alors, c'est un peu comme Reine de l'Ouest, où il y a 22 fins. Et les games sont un peu plus courtes, mais c'est vraiment humoristique. Mais l'humour, il est vraiment bien intégré à la mythologie. Moi, j'ai trouvé que l'alliage, était bien.
Donc Pauline Hélière chez Syros.
Alors Pauline Hélière chez Syros. Donc c'est un éditeur qui se lance dans la littérature interactive.
On dirait bien.
Donc moi, j'aime beaucoup. Le livre qui est souple. Ouais. Par contre, ce que je déplore. Patrice, vas-tu le remarquer en ouvrant le livre?
Non, mais la couverture est faite par l'IA, là, non?
Alors, non, pas comme pour le Grand Bal des Légendes, c'est pas fait par l'IA. Il manque, donc, des illustrations qui t'avaient plu dans Holy Osley. Ça, c'est dommage pour des jeunes, j'aurais aimé. Des illustrations, toi, qui contribue aussi au plaisir un peu de la lecture.
Ah, mais ça, t'es né avec les livres dont vous êtes le héros, chez Gallimard, voilà. Quoi.
Et c'est dans
ça.
L'invasion de la planète barbare, en fait, on peut incarner en fait un barbare ou une barbare d'une planète brutalgueuse qui est envahie par des êtres
là.
Hideux. Mais on peut jouer soit donc celui qui est envahi ou l'envahisseur. Donc ça, c'est sympa. Et des fois, on a même un paragraphe qui est un peu le même, qu'on soit donc l'envahisseur qu'on poursuit ou l'envahi qui poursuit l'envahisseur. Et le but, c'est d'arriver donc à protéger sa planète ou donc à la conquérir.
Ouais, c'est un peu comme Avatar et on peut être donc dans les deux camps, quoi.
Dans les deux camps.
Mais on choisit son camp au début.
On choisit son camp au début. Ouais, et donc, personnage masculin ou féminin.
T'as fait les deux?
Alors, j'ai fait rapidement les deux, comme en fait, t'as différents cheminements possibles. Et c'est ça qui est bien, c'est, on a envie de se détendre. On prend donc un de ces romans immersifs. Voilà, pour quelques dizaines de minutes, une petite game. On repose le livre et on peut le reprendre plus tard. Sachant que pour l'invasion de la planète barbare, on joue avec un dé et on a une feuille de route au début. Donc c'est humoristique et à la fois...
Le sujet n'est pas très drôle.
Bah oui, mais justement, ces autrices, donc des autrices, elles arrivent à apporter de l'humour.
Humour noir, alors.
Oh ouais, mais vraiment un bon humour dans des aventures qui pourraient être vues un peu tragiquement. Donc moi j'ai bien aimé, donc c'est un premier pas dans la littérature interactive et je vous invite donc à prendre ces livres en main de 14 € et qui vont vous permettre donc d'en apprécier surtout la construction, le réseau, si comme moi vous aimez donc reprendre une feuille de papier et faire tous les cheminements possibles.
Ok, eh ben merci Sébastien. Eh ben on va passer à l'interview d'Emma Fontenot, donc du Château d'Angers, pour reparler du Grand Bal des Légendes. Il y aura de la musique hein, pendant ce week-end-là, et notamment une harpiste. Alors là, je viens de paumer son nom, qui ouvrira un peu le Grand Bal le samedi soir. Elle fait des vidéos avec des reprises sur YouTube, et notamment, il y a une reprise d'une chanson que j'aime bien... Le bout du monde d'Émilie Loiseau que j'avais vu en concert d'ailleurs au quai, moi, tu vois, en face du château. Et bon, comme voilà, c'est le il me semble que l'adresse du château d'Angers, c'est au bout du monde, non, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Je me suis dit, tiens, on va commencer par ça, c'est un petit peu raccord. On s'écoute ça tout de suite.
Hein. Toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'eau. Au bout du monde, j'avance seule dans le brouillard. C'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde.
Nous sommes dans la cour du château d'Angers en compagnie d'Emma Fontenot. chargé de communication pour le Château d'Angers. Et on va parler du Bal des Légendes qui se tiendra les 14 et 15 juin au Château. Avant, on revient un petit peu sur l'événement mousquetaire qui a eu lieu samedi, dimanche dernier au Château.
Un pour tous, tous au Château. Alors c'est une idée qu'on avait depuis déjà un certain temps. On voulait faire découvrir cette période-là de l'histoire qui a aussi eu un impact sur la vie du château, puisqu'on a accueilli un prisonnier très célèbre au château d'Angers, Nicolas Fouquet, ministre de Louis XIV, rival de Colbert, et qui est donc arrêté en Bretagne, en fait, sur ordre de Louis XIV. On doit l'enfermer dans l'attente de son procès, et donc la forteresse, pas trop loin de Nantes, suffisamment loin de Paris et qui offre tous les gages de sécurité possibles dans le coin, et ben c'est le château d'Angers. Donc on a une lettre de Louis XIV qui est conservée aujourd'hui dans le fonds ancien de la bibliothèque municipale d'Angers qui indique aux Angevins qu'il va falloir qu'ils fassent bon accueil d'une troupe de mousquetaires qui vient conduire ce prisonnier de marque au château d'Angers. Et donc à la tête de cette troupe de mousquetaires, un certain D'Artagnan, qu'on connaît tous évidemment par le roman d'Alexandre Dumas. Donc ça faisait nous un moment qu'on avait envie de raconter cette histoire, parce que souvent les Angevins connaissent pas du tout cette période-là du château. Quand on pense château d'Angers, on pense au Moyen-Âge, au roi René, à la tapisserie de l'Apocalypse, mais il y a d'autres histoires à raconter. Donc ça nous trottait dans la tête depuis un petit moment. Ça a en effet rencontré d'autres envies sur le territoire, et on a rencontré donc la route européenne d'Artagnan qui était aussi liée ce week-end avec la fête Angers Fête l'Europe. Voilà, donc il y a un peu une rencontre comme ça de plein d'opportunités. La route européenne d'Artagnan, c'est un circuit équestre et culturel à travers l'Europe. Donc ils étaient présents ce week-end pour animer l'événement aux côtés de plein d'autres artistes, associations, compagnies de théâtre, etc., qu'on fait rêver un petit peu tout le monde pendant ce week-end.
Première question, c'est donc le bal du château, c'est un événement annuel. Pourquoi cette envie? Depuis combien de temps est-ce que le château accueille un bal?
Alors cette année, en effet, notre grand bal, il devient le grand bal des légendes. Ça sera la quatrième année qu'on accueille un grand bal au château. Alors le tout premier, c'était un grand bal année folle, année 20. Deuxième année, plutôt le swing, les années 30. Et vous voyez la logique, on a poursuivi dans le temps. Et l'année dernière, 80e anniversaire de la Libération, c'était le grand bal de la Libération. Et donc cette année, eh ben, on fait un petit pas de côté. On sort un petit peu de l'histoire pour aller vers la fantaisie. Et donc avec le grand bal des légendes, on vous propose une plongée dans l'univers du roi Arthur, et donc un grand bal voilà qui se retourne finalement sur ce qu'on connaît bien au château d'Angers, qui est le Moyen-Âge, mais pour le prendre d'une manière très différente, à travers justement plutôt une ambiance geek, médiévale, fantasy, cosplay, etc.
Un grand bal, on est là pour danser, est-ce qu'on va y retrouver des troubadours, des trouvères?
Donc c'est un événement qui a lieu tout le week-end, il y a des choses en journée, il y a des choses en soirée, donc si vous voulez danser, il faut venir en effet le soir. On aura des sets musicaux, une harpiste, une chanteuse, et en deuxième partie de soirée, le moment où vraiment là on va s'ambiancer un peu, on aura le groupe Courceval, qui est un groupe de bardcore. Donc le principe, c'est de réinterpréter des airs de notre temps à nous, donc Ed Sheeran, Lady Gaga, etc., mais tout ça avec des instruments et évidemment une tonalité, une manière de jouer qui est celle des ménestrels du 15e siècle. Donc un truc très décalé qui, à mon avis, va faire danser tout le monde très tard.
Et qui dit bal dit s'habiller. Est-ce qu'il faut venir costumé?
C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Évidemment, le public, il participe grandement à la réussite d'un événement. Donc là, pour qu'on soit à fond dans l'ambiance, évidemment, on attend à ce que le plus de monde possible vienne costumer. On a même un concours de cosplay, un concours de costumes. Vous pouvez vous inscrire pour participer et gagner des lots. Voilà, donc évidemment, plutôt dans notre univers, notre thème de cette année qui est médiéval fantasy. Mais on ne refusera l'entrée à personne si le costume n'est pas tout à fait dans le thème, ou si on n'est pas costumé, évidemment. Tout le monde est le bienvenu.
Il n'y aura peut-être pas le concours, par contre.
Et là, on vient de parler de toute la partie soirée, mais en journée, ça veut dire qu'il ne se passe rien?
Et si, il y a plein de trucs aussi en journée. Alors déjà, on a une échoppe fantasy dans le logis du gouverneur. Donc là, on aura plein de créateurs à venir découvrir. Alors des auteurs et des autrices de littérature fantasy. On aura également l'association Imaginaire qui sera là, hein, qui est là pour promouvoir cette littérature fantasy. Donc on est ravis de les accueillir. On aura aussi des tatoueurs. Alors ça, c'est une première au château. Vous allez pouvoir venir vous faire tatouer. Alors soit un tatouage permanent, soit un tatouage éphémère. éphémère si vous avez encore un petit peu peur de vous lancer. Et on aura même la possibilité de se faire tatouer des détails de la tapisserie de l'Apocalypse. Voilà, on a vraiment des artistes qui ont joué le jeu à fond. On aura également la chaumière au bout des rêves qui propose des costumes voilà, dans cet univers-là médiéval fantasy. Voilà, donc plein de créateurs à découvrir au logis du gouverneur. On aura également en déambulation la fée Eugénie pendant la journée. Donc elle se déplace avec un petit véhicule roulant très décalé et puis elle joue du violon et elle est elle aussi dans cet univers très très légende.
Est-ce que il y a d'autres activités qui sont prévues en dehors de la danse et de dépenser sa solde du mois?
Oui, alors on peut venir évidemment s'initier aux jeux de rôle, donc notamment avec les arts ludiques qui seront dans la Porte des Champs, et c'est idéal notamment si vous connaissez pas très bien cet univers et que vous voulez voilà, vous initier à ça, donc du JDR et puis aussi des jeux de plateau avec les arts ludiques. Et puis on a le grand honneur d'accueillir Fibre Tigre qui va animer deux sessions de jeux de rôle dans la chapelle, donc vous pouvez déjà vous inscrire pour faire partie du public et on tirera au sort ceux qui auront la chance de jouer avec lui à la table.
Est-ce qu'il y a déjà des licences de prévues pour son jeu de rôle ou est-ce que c'est la surprise? On ne sait pas dans quel univers, à part médiéval fantastique.
Je crois qu'il s'inspire justement du château, non? Pour son scénario.
C'est un jeu de rôle créé spécialement pour l'événement?
Ouais, tout à fait. Donc c'est deux quêtes. La première, c'est le sixième vampire et le deuxième, c'est Ciel de cendre. On n'a pas tout dit, il y a plein d'autres choses. Donc on vous invite à aller voir sur notre site internet. Mais par exemple, il va y avoir un spectacle de fauconnerie. Évidemment, on est là à fond dans cet univers médiéval. On aura aussi des chevaux qui seront présents puisque l'événement est animé par la compagnie Alagos. Donc le roi et la reine Arthur et Guenièvre seront là à cheval. Voilà, donc on a vraiment plein d'animations en journée, en soirée, en avant-soirée, donc vous pouvez profiter.
Dernier point extrêmement important, parce que là on a parlé du divertissement, la restauration.
Évidemment, on peut manger sur place. Donos déjà, on peut manger au restaurant du château, le Clos du Roi, qui se trouve au pied du logis du gouverneur avec sa petite terrasse entourée d'hortensias. Voilà, c'est quand même le spot parfait à Angers pour casser une graine. Et on aura aussi des food trucks dans la cour du château. Donc vous pouvez en effet tout à fait rester dans le château pour vous restaurer et profiter de votre soirée dans une petite bulle sans sortir.
Donc concrètement, mon programme pour le week-end, le samedi du 14 juin, j'arrive, je monte sur les remparts du château d'Angers pour voir un spectacle de fauconnerie, je vais faire le tour de la tapisserie d'Apocalypse, je vois un motif qui me plaît. Dans le logis du gouverneur, je me fais tatouer éphémèrement par ce motif-là. Je profite des auteurs et d'imaginaire avant de descendre me restaurer et de participer toute une soirée à une soirée jeu de rôle. J'ai bon ?
C'est ça, et en plus il y a des spectacles de musique et à la fin on danse tous sur du bardcore puisque c'est quand même un bal, hein, évidemment.
Bon, je vais revenir un petit peu dans le temps, c'est venu comment cette idée?
Le bal des légendes, c'est venu comment? Alors c'est venu parce que on a des jeunes qui travaillent avec nous, ça va peut-être vous surprendre, dans un château qui a plusieurs siècles et qu'il y en a certains qui sont très fans de médiéval fantasy, donc je les salue, j'en salue une notamment, Johanna, si elle nous écoute. C'est aussi parce que je l'ai déjà dit, l'Apocalypse c'est une œuvre super geek, donc on a participé par exemple cette année au Angers Geek Fest, on a contribué notamment à l'ouvrage M42. Donc cette année le thème c'était les super vilains, donc on a contribué avec un petit texte qui s'appelle Super méchant de l'Apocalypse et super vilain des comics, même combat. Donc en fait nous on s'est déjà amusé beaucoup, les médiateurs du service culturel, avec cette tapisserie, à la raconter sous plein d'angles différents. On peut la raconter aussi sous tous ces liens qu'elle peut avoir avec le cinéma apocalyptique ou avec le cinéma de science-fiction, je pense par exemple à Star Wars, etc. Donc c'est quelque chose déjà dont on avait un peu l'habitude, parce que sous nos airs très sérieux d'agents publics de l'État, on a un petit grain de folie aussi quand même, et donc on aime bien faire des choses comme ça. Et puis depuis plusieurs années, on essaye de faire des événements populaires qui font venir un public très large. On a commencé il y a déjà longtemps avec notre événement au moment de Noël, donc la Belle Échoppe, qui est un grand week-end avec un marché de créateurs qui est là aussi pour valoriser tous les savoir-faire qu'on peut avoir en local, puisque c'est un marché qui est très made in Anjou.
Il y avait déjà des dragons cette année, non ?
Il y a tous les ans il y a un thème, donc on a fait un thème par exemple pas cette année, l'année dernière, qui était autour de l'univers Jules Verne et le steampunk. Donc déjà on se rapproche un petit peu de cet univers là de la fantasy. Cette année, on était plus sur l'univers de la confiserie enchantée. Voilà, on a eu une année où c'était magie et sorcellerie. Donc voilà, ça fait déjà un moment qu'on essaye aussi de pousser comme ça des thématiques qui sont grand public ou qui sont un petit peu peut-être décalées par rapport à ce qu'on peut attendre d'un monument comme le nôtre, mais qui ont l'avantage donc de faire venir un public différent et qui finalement se réapproprie et redécouvre aussi le patrimoine et les œuvres qu'on a ici avec un autre regard.
Depuis 4 ans, vous faites ce bal dans le château, mais moi, je vous avais surtout connu sur les activités un petit peu bizarres, sur les escape games et puis les chasses aux fantômes. C'est une habitude, c'est une volonté de continuer à proposer ce genre d'activité.
Oui, c'est vrai que si on remonte un petit peu le fil, les premières activités un peu décalées, insolites qu'on a pu proposer à nos visiteurs, il y avait des escape games avec Sibylline Escapade, et ensuite il y a eu des visites spirit avec la spirit Sandy Lagdar qu'on a animée pendant 2 ans dans les entrailles du château. Donc ça, c'était des offres aussi tout à fait insolites par rapport à ce qu'on peut proposer nous d'habitude et qui ont fait venir un public très différent, mais un public qui est aussi attaché au patrimoine finalement, à l'histoire et à tous les mystères que ça peut véhiculer.
Alors, est-ce qu'on a trouvé quelque chose avec Sandy ? Et deuxième question, est-ce que le château est hanté ?
Ah bah Sandy, elle va vous dire que le château est hanté. Oui, ceux qui ont participé à ces visites, ils ont entendu des choses, ils ont ressenti des choses. Mais que ça ne vous décourage pas à venir les 14 et 15 juin. Ce sont des gentils fantômes, j'en suis persuadée.
Je ne sais pas si le château était hanté avant que Sandy n'arrive, mais il me semble que tous les participants aux Escape Games ne sont pas sortis des oubliettes.
Bah écoutez, il faudra bien regarder le soir du 14 juin si vous retrouvez quelqu'un qu'on aurait laissé dans un cachot. Non, jusqu'ici, on a jamais eu de réclamation de ce genre-là.
On va se projeter un petit peu dans le futur. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Est-ce qu'il y a d'autres événements historiques qui ont eu lieu au château et que vous n'avez pas encore magnifié comme ça par un événement ?
Alors, sur ce thème de la médiéval fantasy, c'est un thème pour tout vous dire qu'on va continuer à creuser un petit peu. Donc, je vous en dis pas plus, mais on espère en effet que dans les années à venir, on aura peut-être plutôt du côté culturel, patrimonial, exposition, quelque chose qui ira creuser de la matière de ce côté-là. C'est pareil d'ailleurs sur notre histoire de fantômes. C'est quelque chose qu'on a dans nos cartons pour peut-être également une prochaine exposition sur cette question-là des fantômes. Voilà, je vous en dis pas plus. Là, je vous ai déjà donné des petits scoops quand même.
Pour ce week-end live, j'imagine qu'avec toute cette programmation, il va y avoir un drive qui sera un peu différent.
Oui, il y a une billetterie spéciale pour l'événement. On vous invite à prendre vos billets en avance. Ça vous évite de faire la queue le jour J. On a 3 types de billets. Vous pouvez prendre un billet pour la journée. Donc, si vous voulez plutôt profiter de ce qui se passe en journée, donc regardez bien le programme avant de faire votre choix de billet. Et donc, ce billet journée, il est à 14 euros. On a un billet soirée à 19 euros. Donc là, c'est si vous voulez venir le samedi soir. Et si vous voulez venir en journée, en soirée, vous voulez venir tout le temps et vous savez pas choisir, eh ben, vous prenez un pass week-end. Voilà, donc le billet soirée est à 19 et le pass week-end est à 30 euros. Et donc là, vous pourrez revenir le samedi, le dimanche, le samedi soir en illimité comme vous voulez. Ça, c'est une nouveauté aussi. Profitez-en, regardez bien le programme, faites votre choix. Et puis, vous pouvez aussi venir le jour J sans avoir pris votre billet à l'avance. Il y aura toujours normalement des places en caisse, sauf si c'est un raz-de-marée. On ne sait pas. Mais en général, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour cette présentation.
Bah merci à vous d'annoncer cet événement et puis c'était un échange chouette.
Et donc rendez-vous les
14 et 15 juin au domaine national du Château d'Angers.
C'était l'équipe imaginaire de Radio G au Château d'Angers.
Caché dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd, tu presque rien à qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver de sens et rien ne va, tout est chaos à côté. Tous les idéaux, mes mots abîmés, mort est un mystère, la vie n'a rien de temps. Si le ciel est un enfer, le ciel peut bien m'attendre. Dis-moi, dans ces vents contraires, comment s'y prendre? Rien n'a de sens et rien ne va. C'est chaos à côté. Tous mes idéaux, mes mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée.
On n'entendra pas Sébastien chanter.
Dommage.
Avec Courseval, donc, groupe de bardcore. Alors voilà, bon, ils font des reprises de chansons pas si récentes que ça, d'ailleurs. Hein. Désenchanté de Mylène Farmer, ça.
91.
Oui. Wow. Voilà, c'est eux qui animeront donc le Grand Bal des Légendes le 14 juin au Château d'Angers. Et voilà, j'ai retrouvé le nom de la harpiste qu'on a écoutée avant, c'est Virginie Le Fureau, qui nous vient de Bretagne et qui, elle aussi, fait des reprises à sa façon. Alors, on a pas mal d'autres trucs à annoncer dans l'agenda. D'abord, je voulais faire de la pub pour la soirée jeu de rôle à Ludotrotter demain soir. Donc, c'est un mercredi sur deux. Donc, je sais pas si vous connaissez ce magasin de jeux de société Place Lafayette. C'est l'association 1 des 20 qui anime donc trois tables là-bas tous les mercredis. C'est toujours de 19h à 21h30 et c'est l'occasion de découvrir des trucs. J'en parle notamment parce qu'il y a Ludo qui fait jouer Dungeon Crawl Classics. Donc Ludo des Gong Farmers de l'Anjou qui est déjà venu faire le maître du jeu pour Imaginaire dans d'autres animations.
D'accord.
On le retrouvera à leur Ludo Fest les 7 et les 8 juin au Parc Expo. Donc c'est la première fois que Ludo Trotter organise un énorme événement jeu de société. C'est gratuit, mais faut quand même prendre des places sur le net. D'ailleurs, alors pour le si vous voulez aller aux soirées jeux de rôle à Ludo Trotter, c'est pareil. Je crois qu'il reste que deux places. Il y a 20 places en fait tous les mercredis. Donc tout ça c'est sur inscription. Puisqu'on parle de soirées jeux de rôle, il y a les soirées à tour de rôle. Il y aura la deuxième. Alors c'est la Team Javras qui fait ça au Blue Monkeys. La Team Javras, ils interviennent dans l'émission Jeux de rôle sur Radio G le lundi, qui s'intitule Les Voix du Scénarium. Et là, ils se lancent en fait dans des soirées jeux de rôle avec un grand public. Enfin, il y a une cinquantaine de personnes. Hein. C'est payant et ils divisent le public en personnages en fait, en genre 5 personnages et après au sein de chaque équipe on vote pour les actions que va faire le personnage.
Ah, j'ai beaucoup l'idée.
Donc Sébastien, toi qui aimes bien ce genre d'événement interactif,
faut qu'on essaye.
Il y a juste un petit souci, à chaque fois ça tombe pendant une émission imaginaire sur Radio G.
Ah. Comme par hasard.
Donc la prochaine c'est mardi 10 juin au Blue Monkeys aussi, le thème pour une poignée de pièces d'or. Sébastien, on verra si t'es avec nous pour l'émission spéciale alien qu'on compte faire ce jour-là.
Normalement. Oui.
Et puis donc, je voulais aussi annoncer rencontre avec l'écrivain américain Alexander Dickoff qui écrit de la science-fiction et il est publié notamment Le Premier Souper chez La Volte. Ce sera mercredi 11 juin à 18h30 à la bibliothèque anglophone. Et ben nous, on va se dire bye bye et on se retrouve ici donc dans deux semaines pour parler d'Alien.
Yes, avec Romuald.
Au revoir.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde.
www.radio-g.fr